Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre table ronde dédiée au sujet de la QE au QE, par où démarrer, nous avons abordé les critères de succès d'une transition vers le Quality Engineering. Au travers de nos échanges, nous avons identifié des questions clés et des pratiques actionnables pour votre contexte. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo et un article complet sur le blog. Une bonne écoute, souscrivez pour suivre les prochains épisodes.
Qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir avec cette transition, en fait? La valeur ajoutée, en fait, côté business, qu'on essaie d'obtenir. Celui-là, c'est moi qui l'avais mis. Pour créer cette transition, l'idée, c'est de connaître les critères de réussite et qu'est-ce qu'on veut apporter, quelles sont les méthodes qu'on veut améliorer, etc. Donc, avec cette transition, j'imagine que c'est quelque chose qui est voulu par le management de la boîte. Qu'est-ce que le management cherche à obtenir avec cette transition?
Et donc, par transition, tu entends transition vers une inclusion plus forte de la qualité, etc. C'est ça que tu as
entendu?
Du coup, et ta question, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à obtenir ces critères de succès, c'est ça, de la part d'un management et formaliser, quoi.
C'est ça.
Ça, c'était répondre à la question du. La dernière fois, c'était Iman dans un événement qui disait ça. Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots, quoi. Pourquoi vous voulez faire ça, en fait? Je vois, vous avez. Moi, j'ai l'expérience, mais je ne sais pas si vous avez des. Je ne sais pas, Florian, toi, si tu as des expériences là-dessus, si tu as déjà dû le faire, comme en plus tu as l'engineering, j'imagine que tu es souvent. Enfin, moi, c'était un peu l'expérience que j'avais. L'engineering, tu es souvent pressionné pour livrer les features. Bon, après, la qualité, du moment que les features sont à l'heure, on verra plus tard, quoi. Du coup, je ne sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as eu à formaliser ou pas là-dessus.
Oui, totalement. Ouais, c'est sûr, tu auras une pression de faut sortir plus vite ou plus tôt. Et quand la qualité arrive trop loin dans le process, c'est souvent ce qui est. Là, on essaie de gagner du temps, malheureusement. Alors, mais du temps à court terme. Et qu'on paye à un moment donné derrière.
Par exemple, moi je peux partager un peu l'expérience si c'est intéressant. Vous me dites qu'on peut échanger là-dessus, mais par exemple, nous on était la prise de conscience qu'il y a eu pour se dire on ne peut plus continuer avec que à pousser le delivery. C'est en gros la plateforme web qui était au début de. Enfin, c'était à 5 ans côté Redoute, hein, c'est en gros, le magasin, quoi. On se dit, aujourd'hui, on fait 60% du CA dessus, demain, c'est 95%. Voilà, ça, c'était l'hypothèse de base de croissance. Et la plateforme, on l'a livrée tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, suivi de semaines très dures de correction de bugs, de trucs qui ne marchent pas, de rollback, bref, vraiment le truc insupportable. Et en fait, on a malheureusement dû se taper 2-3 releases comme ça pour en fait pouvoir se dire, non, mais si vous voulez que structurellement, on change, il faut qu'on balance... qualité dans le sens qualité structurelle de l'archi de la plateforme, des tests, du process de développement, de déploiement, etc. Et en fait, là, du coup, les critères de succès de la transition qu'on a définis, en fait, c'était vachement dur à faire obtenir et comprendre côté métier, parce qu'en fait, au début, ce qui va arriver, c'est que ça va être vachement plus lent, quoi. Du coup, les critères de succès de la transition, du coup, ça devient plutôt, enfin, en tout cas, nous, c'était plutôt des critères de succès sur la... On va dire la capacité qu'on arrivait à apporter de la valeur de manière régulière. Donc en fait, les types de KPI qu'on a changé, là où avant c'était le nombre de features par release, du coup ça a tendance à faire un peu de release, mais des gros paquets qui sont complètement avec un risque de taré en fait, parce que quand tu fais ça, tu ne mesures pas le risque associé à release. Donc ce qu'on a fait, c'est plutôt se dire combien de livraisons je peux faire sur un intervalle donné. Donc par exemple, on avait mis sur un mois, il y a 20 jours ouvrés en average, quoi, en moyenne. On s'était dit, sur 20 jours ouvrés, combien on fait de livraison? En se disant, idéalement, il faudra en faire 20, voilà, en étant un peu drastique. Hein. Mais du coup, le premier résultat, c'était zéro. Parce qu'en fait, tu lises tous les 3 mois, tu es à 0% de l'atteinte de l'objectif. Et en fait, du coup, ça nous a forcé. On a été hyper drastique là-dessus pour se dire, en fait, si on est bon dans notre chaîne de qualité de délivrer et de déploiement, pourquoi est-ce que je ne peux pas livrer un changement simple la même journée, en fait? C'est à ça que la question qu'on essaie de répondre. En fait, la réponse au début, c'est les processus ne sont pas automatisés, il n'y a pas de tests, le déploiement, les tests sont manuels. Et en fait, du coup, tu fais remonter en fait, plein de problématiques. Et donc, du coup, moi, un élément de réponse que j'apporte là-dessus, en fait, critère de succès, c'est à court terme, pour nous, c'était savoir livrer rapidement des petits changements. Et du coup, faut pas, pour moi, faut pas être sur, par exemple, des nombres de features livrées, des choses comme ça. Parce qu'en fait, au début, tu seras forcément sur des petites valeurs. Parce que tu dois vachement remettre à plat tes fondations et toutes ces choses-là, qui au début apportent pas de valeur métier. Et par contre, dire, bah, moyen long terme, par contre, ce qu'on va vous apporter, c'est une stabilité dans la livraison, une prévisibilité de la valeur métier qui est livrée. Et globalement, beaucoup moins de risques. Parce qu'en fait, mais ça se voit pas tout de suite. C'est ça qui est hyper compliqué à vendre au début. Donc c'est pour ça. Souvent, il faut un électrochoc et être vraiment on va dire, au sous-sol du niveau de
Ouais,
performance attendu pour que les
c'est ce
gens
que
se
j'allais
disent.
dire, ouais. C'est souvent quand il y a le feu dans la maison que le sujet est amené sur la table et qu'il faut agir vite. Et effectivement, en fonction de quel feu, quel type de feu brûle, ça définit quel critère de succès on peut donner, que ce soit en termes de temps de livraison ou tout simple. Enfin, là, l'exemple que j'ai en tête qui arrivait chez nous, c'est simplement de bugs majeurs remontés par les clients, ou de temps parfois de downtime de leur plateforme dû à des problèmes de performance.
Ouais, et en fait, la réponse, ça peut pas être, bah, on va juste faire un fixe. C'est non, en fait, le problème derrière, c'est structurel. En fait, il y a d'autres problèmes que le dev. Ou, enfin, voilà, c'est pas juste un développeur tout seul qui va nous résoudre le problème.
Parfois, oui, il y a des petits quick wins, mais on arrive vite aux limites, ouais.
Bah, c'est
Du
clair.
coup, ça m'a fait surtout penser à une transition vers CI/CD, en fait, surtout.
Ouais, bah alors en partie oui, parce que je pense que pour pouvoir livrer rapidement de la valeur avec peu de risques, je pense qu'il faut de l'automation. Du coup, si tu arrives, pour moi, si, en fait, si tu arrives à dire tu sais faire, parce qu'en fait, CI/CD pour moi, c'est un prisme dans l'horizontale, quoi. C'est se dire j'ai mes environnements contrôlés, je déploie de manière contrôlée, etc. Pour moi, j'ajouterais CI/CD avec la qualité built-in avec les quality gates. Et après, j'ajouterais CI/CD avec un S en se disant si les process, enfin en gros, si ça a bien été pensé, pour moi, on doit être capable de paralléliser des livraisons de composants de manière découplée. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le sujet, je pense. C'est par exemple essayer de livrer une plateforme monolithique une fois par jour avec je ne sais pas combien de développeurs avec les branches et tout, c'est quasiment, enfin, c'est un peu digne de l'héros, Clint Eastwood ou un truc comme ça, peut-être qu'il peut résoudre ça, mais bon, le Indiana Jones, pardon, c'est ça que j'avais en tête. Mais globalement, je pense que c'est compliqué. Donc pour moi, il y a un peu ces prismes-là. Je pense que CI/CD, ouais, c'est une partie intégrante de la chaîne, quoi. Parce que pour moi, ça veut dire que tu arrives à un peu. Tu passes de l'artisan au mec qui a son usine, en fait. Enfin, qui commence à avoir une bribe d'usine. C'est un peu ça le sujet, quoi. Donc, mais CI/CD, pour moi, c'est quand même vachement. Enfin, c'est pas déjà l'air complexe, mais c'est quand même, ça montre un niveau de maturité, parce que ça veut dire que tu arrives à expliciter des choses que tu fais à la main, et du coup, elles doivent être hyper robustes parce que tu dois pouvoir l'automatiser, quoi. Donc, si ton truc, c'est des séries de, on va dire, de steps un peu mal faits, mal pensés, etc., bah, tu n'arriveras pas à l'automatiser, quoi. C'est la citation de Bill Gates, là, je ne sais plus quoi. Essayer d'automatiser un process inefficace le rendra d'autant plus inefficace, mais c'est un peu. En fait, c'est un peu ça que ça, mais ça remonte, en fait. C'est quand tu essayes d'automatiser quelque chose de mal pensé, ça donne de très mauvais résultats. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu partisan de. Faut pas penser le CI/CD tout seul, pour moi. Faut le penser lié dans la chaîne de déploiement end-to-end, quoi. C'est un peu ça, enfin, ma vision perso, quoi. Je sais pas.